Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
1982, les lois Auroux sur les droits des travailleurs.
Je voudrais transformer le code du travail en code de démocratie économique. Et cette démocratie est fondée sur deux piliers. Le droit d'expression directe, qui est en quelque sorte la démocratie directe, et puis, pour la négociation, notamment, la démocratie représentative avec les différentes institutions qui existent.
Jean Auroux lui-même, qu'on risque d'entendre plusieurs fois dans cette émission. Le général de Gaulle, déjà, avait soutenu que les travailleurs avaient le droit de participer aux bénéfices des entreprises, et un haut fonctionnaire, François Bloch-Lenné, s'était demandé s'ils ne devaient pas participer aussi à la définition de leurs orientations stratégiques. Dans les années 1960, la question se posait d'un nouveau code du capital. En attendant, à son arrivée au pouvoir en 1981, le nouveau gouvernement de gauche se propose de modifier le tiers du code du travail. Rue de Grenelle, le ministre en charge de cette réforme, c'est Jean Auroux. Et sa maxime, l'entreprise ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Les quatre lois Auroux, entre le 4 août 1982, anniversaire de l'abolition des privilèges, et le 23 décembre, période des cadeaux de Noël. C'était il y a une génération seulement, cependant le contraste avec aujourd'hui est assez saisissant. Certes, la vie politique composait déjà des figures comparables à celles d'aujourd'hui, quelle part faire dans l'action à la loi et aux ordonnances, quelles alliances syndicales composer avec la CFDT, mais alors que faire de FO, etc., etc. Mais l'époque était tout autre. En 1981, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, déclarait à propos des banquiers, c'est simple, c'est eux ou nous. Aujourd'hui, le président de la République dit le contraire. Le mot « entrepreneur », explique-t-il, est à mettre au premier rang du vocabulaire français. Le désir de Jean Auroux était de renforcer la citoyenneté dans la collectivité. Aujourd'hui, le travailleur est présenté comme un individu appelé à un parcours d'emploi heurté. Et ce qui garantit son avenir, c'est sa capacité d'adaptation. Quant à l'expression, y a sans doute d'autres lieux pour cela que l'entreprise.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et oui, l'invité c'est Jean Auroux, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez quel âge quand vous êtes devenu ministre du Travail ?
À peine 39 ans.
39 ans, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que la ministre du Travail soit une DRH, parce qu'elle connaît les textes. Et qu'est-ce qu'il vous dit François Mitterrand quand il vous nomme ?
François Mitterrand me propose d'être ministre du Travail alors que j'avais été dans son équipe présidentielle en charge du logement. J'ai donc fait observer, j'ai dit, écoutez, président, vous me faites beaucoup d'honneur de rentrer au gouvernement, mais le ministère du Travail me pose problème parce que je ne suis pas juriste. Et il a eu cette réponse, il me dit, justement, je ne veux pas juriste. Vous êtes maire d'une ville ouvrière, les femmes dans le textile à Rouen, les hommes dans la mécanique ou l'armement. Vous connaissez la vie des hommes, des entreprises et les partenaires sociaux. Vous trouverez des juristes pour mettre en forme, mais c'est vous qui sentez les choses.
Vous n'êtes pas quand même parfaitement informé, parce que quand vous embauchez dans votre cabinet Martine Aubry, qui va jouer un rôle important dans la rédaction des lois, vous ne savez même pas que c'est la fille de Jacques Delors.
D'abord, j'ai essayé d'avoir quelques énarques pour m'aider dans le travail de législation. Et peu de gens se précipitaient, me demandaient quels étaient, dans ce ministère qui était pauvre, quels étaient les primes, les avantages. Il n'y en avait aucun. Et donc, parmi ceux qui ont quand même décidé de s'engager, il y avait Martine Aubry, qui a eu l'élégance de ne pas me dire qu'elle était la fille de Jacques Delors.
Enfin, il y a tout de même un très beau bureau. C'est là que vous commencez la préparation d'un rapport. Tout commence par des rapports. En France, en 81, il y a un rapport sur la gestion du gouvernement précédent, fait par François Bloch-Lenné, encore lui, puis vous. Votre rapport, il est prêt pour le mois d'octobre. Comment vous le faites, ce rapport ?
Alors, d'abord, j'ai été surpris, puisque je n'avais pas été prévenu par le président ni son cabinet de la nécessité de préparer un rapport sur les nouveaux droits des travailleurs. J'ai appris ça en Conseil des ministres. Et j'avoue que j'ai eu une certaine inquiétude, parce que d'habitude, les rapports sont confiés à des experts, des parlementaires, qui permettent d'être fusibles si on ne suis pas toutes les recommandations faites. Or, le 8 octobre, j'ai présenté ce rapport. moins copieux que celui des ordonnances Macron. Hein. Il faisait 130 pages, dactylographié laborieusement. Bon. Et le 4 novembre, c'est-à-dire moins d'un mois après, la totalité de mes orientations étaient retenues par le Conseil des ministres. Et donc toute l'année 82, j'ai décliné les orientations.
Si vous le voulez bien, on va suivre les choses pas à pas, voir que c'est une course d'obstacles quand même que le travail de fabrication d'une loi. Et en même temps que paraît le rapport, tout de suite après, le congrès du Parti Socialiste a lieu à Valence. Il faut savoir que les nationalisations sont nombreuses, que certains dirigeants d'entreprises nationalisées, je pense à celui de Paribas en particulier, organisent des dérivations de capitaux vers l'étranger. Alors la colère éclate à Valence. Le premier qu'on entend, c'est le Placide Louis Mermaz.
Il faut que le gouvernement frappe vite et fort. Il faut qu'il frappe vite et fort s'il veut lutter efficacement contre le chômage, contre les hausses de prix abusives, contre le sabotage de l'économie, contre des complicités qui vont au-delà de notre frontière. En ce qui concerne les banquiers, c'est simple, c'est eux ou nous.
Croyez bien, chers camarades, que personne ne nous saurait gré de laisser en place tous ces hauts responsables de l'économie ou de l'administration qui sont nos adversaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Souvenons-nous qu'en politique, faire un cadeau de ce genre, c'est se condamner soi-même. Mais il ne faut pas non plus se contenter de dire de façon évasive, comme Robespierre à la Convention le 17 Thermidor 1794, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et le dire rapidement. C'est ce que nous attendons du gouvernement, car il en va de la réussite de notre politique.
Paul Quillès, enfin, quand on fait référence à la terreur, mieux vaut être tout à fait exact. Je crois que le 17 Thermidor s'en était déjà fait de Robespierre. Et puis vous, vous auriez préféré qu'on ne fît pas référence à la terreur.
J'aurais préféré, je dois dire, je vais être très honnête, demande que ces propos de congrès d'après élection remportée, élection présidentielle, élection législative, peut se comprendre dans une ambiance, mais ça n'a pas facilité mon travail. Parce que j'avais une évolution lourde à conduire dans le monde du travail qui concernait quand même la grande masse des gens. Et je ne me suis pas vraiment conformé à ce qui avait été dit, puisque mes directeurs d'administration centrale, directeur du travail, directeur de l'emploi, je les ai fait venir dans mon bureau. J'aurais dit, voilà, il y a un changement de gouvernement, d'orientation politique. On vous gardera un statut, mais si vous ne vous sentez pas en situation de m'accompagner, eh bien, je vous demande de vous en aller. Et là, j'ai une réponse que je n'oublierai jamais. Mes directeurs d'administration centrale du ministère du Travail de l'époque m'ont dit, écoutez, nous, nous sommes des spécialistes du droit du travail, ça fait 20 ans qu'on ne fait pas grand-chose, alors on vous accompagne, et j'ai gardé mes directeurs. Et j'ai pu faire mes réformes et mes lois.
Oui, mais vous aviez quand même une pression forte à gauche, il y avait, pour reprendre le langage de la terreur, un comité de surveillance au PS, et puis à l'Élysée, il y avait un président, François Mitterrand, qui tenait à l'une de ses 110 propositions le droit de veto contre les licenciements des comités d'entreprise. Alors là, vous allez voir le président.
Oui, alors là, effectivement, le président avait deux propositions que j'ai contestées, et l'une, c'était le droit d'arrêt des machines, et je l'ai remplacé par le droit de retrait, droit individuel, et puis le droit de veto sur des décisions par le comité d'entreprise. Les syndicats étaient assez réservés sur le droit de veto dans la mesure où, effectivement, une fois qu'on a dit non, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai remplacé le droit de veto par le droit d'alerte qui était alimenté par le budget dont disposaient désormais les comités d'entreprise qui avaient le droit de procéder à des expertises, et je préférais qu'on prenne des décisions quand les clignotants étaient à l'orange plutôt que quand on arrivait à une phase de blocage. Donc le président m'a fait confiance, et après, comme il m'a confié d'autres ministères, je pense que j'ai réussi à le convaincre complètement.
Enfin, il y a quand même des frottements dans cet automne 1981, et voici que la CFDT, pour qui le thème de la libre l'expression appartient à son ADN le plus intime, vient à votre secours, le secrétaire général Edmond Maire.
Le rapport Auroux sur les droits nouveaux des travailleurs, c'est une bonne base de discussion. Mais curieusement, au moment d'être présenté à la presse, une certaine confusion a régné qui donnerait à penser que ce rapport n'a pas l'aval du gouvernement. Nous refusons à y croire. En effet, il nous semble que pour un pouvoir socialiste, l'extension des droits des travailleurs, c'est quelque chose de fondamental, de premier, qui vient même avant les nationalisations. L'extension des droits des travailleurs, c'est aujourd'hui la première chose concrète où ils pourraient sentir le changement, car ils ne le sentent ni dans le chômage, ni dans les prix. Leur vie quotidienne n'a pas changé. Il est donc essentiel que l'on sorte de cette confusion et que le gouvernement dise clairement et au plus vite son engagement public pour que les droits des travailleurs soient, dans les délais les plus raccourcis, inscrits dans la loi.
Alors je sais, Jean Auroux, que vous allez me dire que vous avez eu le soutien du Premier ministre Pierre Mauroy comme du Président de la République. Mais j'aimerais mieux que vous me parliez du rapport des forces que vous composez avec les, oui, avec les syndicats, parce que alors, c'est le problème des ministres du Travail aujourd'hui aussi.
Pour répondre d'abord à l'interrogation d'Edmond Maire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 4 novembre, la totalité du rapport était validée par le Conseil des ministres. Par contre, il faut, par un autre point d'histoire, lorsque la première fois j'ai rencontré mes délégations syndicales, c'est-à-dire Krasucki, la CGT, Montmer, la CFDT, Bornard, la CFTC, Bergeron, la FO, Marquilly pour l'encadrement. Et je leur ai proposé, avec l'énergie et puis le souci de changer la vie, comme on disait, est-ce que vous êtes ouvert à la co-gestion ou à la co-détermination ? Personne n'en a voulu, évidemment, le CNPF, non. Mais même la CFDT, qui avait eu une expérience plus ou moins réussie avec l'autogestion, tout le monde était très prudent. Par conséquent, j'ai mis ça de côté et j'ai essayé d'autres formules pour faire entrer de la démocratie dans la vie économique et dans la vie des entreprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, pour revenir aux tensions, d'abord, à l'intérieur de la majorité, il y avait le PC qui poussait dans un sens classique de ses revendications. Et il y avait également le PS qui n'était pas tout à fait homogène et j'étais très encadré puisqu'il y avait deux présidents d'un côté, son cabinet, mon roi, mais j'avais aussi un groupe parlementaire, dans le groupe socialiste, il y avait une équipe qui suivait les droits du travail qui était présidée par Michel Cofinot. Le PS avait fait une commission, j'ose pas dire de surveillance, mais d'accompagnement présidée par Jean-Paul Bachy. Mais par contre, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il existait à l'époque les groupes socialistes d'entreprise, GSE. Et je les ai réunis à Roanne. Ils étaient 1000 délégués de toute la France. Et eux m'ont donné la force de dépasser. Alors, quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le même point de vue, ça vous donne aussi une certaine liberté.
Je note votre discrétion sur le PC. Le président, c'était... Le PC, le CNPF, pardon, c'était... l'ancêtre du MEDEF actuel.
C'était Chotard qui était le grand...
Négociateur.
Grand négociateur.
Mais le président...
C'était Uvelin, je crois.
Oui, et puis après, c'était...
Ah ben Gattaz.
Mais Gattaz père. Bien sûr.
Oui, mais l'un vaut bien l'autre.
Et monsieur,
j'ai pas une bonne relation avec le père.
Oh là là, ça va coûter des millions et puis ça va être le parlementarisme pour ne pas dire le bordel ou la pagaille. Alors juste pour faire une pause, on va écouter la grève de l'orchestre. Il faut quand même un chef, dit-on au CNPF, et quand la baguette est perdue, rien ne va plus. Juste une anecdote. Journal de Michel Cotta, présidente de Radio France à l'époque, le 16 octobre 1981. Le patron des orchestres de Radio France et de France Musique, Pierre Wozinski, claque la porte. La présidente de Radio France a reçu les syndicats, il n'était même pas lui, il n'était même pas là, et il est absolument furieux.
Assez, monsieur, assez. En grève, en grève.
En grève, en grève, en grève.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
pas assez.
Comment? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs? Vous acceptez?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot?
C'est pas bon.
Être mené à la baguette, chef, cela ne nous convient pas. Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas.
Bon, eh bien mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. Comment? Enfin, songez au revers de la médaille, car enfin ici, il n'y a que moi qui travaille, non?
Soit, nous l'avouons bien haut, vous travaillez du chapeau.
Ah, pas le semble, c'en est trop.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Tous des fainéants. Nous avons Jean Auroux, ministre du Travail en 81-82, dans nos murs. Alors, non content de faire voter 1, 2, 3, 4 lois, on va en parler. Vous avez aussi procédé par ordonnance?
Oui. Ah oui. L'ordonnance est un procédé parfaitement constitutionnel. La différence avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est de savoir si elle apporte du progrès ou un recul. Et comme j'ai l'impression de ne pas avoir été fainéant, j'ai essayé d'apporter un certain nombre de progrès justement pour changer la vie. Alors ces ordonnances, elles avaient plusieurs objets, mais d'abord, dans le cadre de mon projet politique, c'était un, reconstituer la collectivité de travail. Je souhaitais que les gens, dans les salariés comme la direction, l'encadrement, adhèrent à un projet économique et social qu'est l'entreprise. Le deuxième point, c'était de donner des droits individuels. Le troisième volet, c'était des droits collectifs, c'est les institutions représentatives. Et ainsi, on crée des conditions nouvelles pour développer la politique contractuelle.
Ça, c'était les lois, mais les ordonnances.
C'était les lois. Alors, les ordonnances, ça fait partie de changer la vie et d'apporter un plus aux salariés. On avait commencé
dans
avec...
Dans votre barbe, que chaque fois que vous prononcez changer la vie, je vois un sourire. Mais continuez.
Bah, première chose, c'est que mon premier décret, signé avec Jacques Delors, c'était d'augmenter en juin 81 le SMIC de 10%, avec un effet de 50% seulement sur les entreprises, sur les charges sociales. Ensuite, améliorer la vie, eh ben, c'était trois choses. Réduire le temps de travail sur la semaine, 39 heures payées 40, sur l'année, 5e semaine généralisée, et sur la vie, feu la retraite à 60 ans. Et en même temps, pour assurer cette collectivité de travail solidaire, c'était de limiter l'intérim et les CDD, alors là aussi c'est bien loin de nous, en limitant l'intérim et CDD au renfort ou au remplacement. Maintenant c'est devenu l'embauche.
Mais
générale.
Est-ce l'effet des ordonnances ou l'effet d'autres mesures du gouvernement de gauche? Le climat économique en 82, nous sommes maintenant en 82, se dégrade sérieusement, à tel point qu'on s'interroge sur faut-il passer de la politique de la demande avec la relance de la consommation à la politique de l'offre avec la modernisation des entreprises? Faut-il sortir du serpent monétaire européen? Faut-il passer à la rigueur? Les lois, vous allez les faire voter à partir du mois d'août. Le climat est devenu très médiocre.
Alors, le climat est devenu très médiocre. Je pense qu'on a un peu plombé le budget de l'État avec le financement des nationalisations.
Prenons un seul an, vous.
Pas moi, mais c'était le gouvernement. Moi, j'étais plus préservé. Je préférais qu'on garde les choses, de faire progressivement, plutôt que nationaliser l'existant, de nationaliser ce qui allait venir, si j'ose dire. Mais c'est vrai que le contexte était difficile. Il y avait un certain patronat, pas tous. Le CNPF, pas plus que le MEDEF, ne sont des structures homogènes. Mais certains disaient que j'allais avec les comités d'entreprise, qu'il y avait l'information économique, le droit d'alerte, etc., que j'allais créer des soviets dans les entreprises. Donc ça a créé une ambiance. Par contre, j'ai eu un soutien inattendu. Antoine Riboud est venu à la Chambre de commerce de Rouen pour défendre mes lois.
C'est-à-dire grand patron.
Grand patron, Danone. Quand même, Danone. Je pense que Mme Pénicaud ne l'a pas connu.
Mais
on ne va pas entrer dans le détail. On ne va pas entrer dans le détail, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui.
DRH de Danone.
Alors, effectivement, il y avait des tensions qui se traduisaient. Cependant, il faut savoir qu'à cette époque-là, le contexte économique était différent. On avait des entreprises, les patrons, c'était plutôt, j'emploie un mot ancien, mais qui dira bien ce qu'il veut dire, qui seront plutôt des usiniers. Aujourd'hui, c'est la finance qui commande. C'est plus le patronat traditionnel.
Alors, je voudrais qu'on fasse le bilan, oui, pas point par point, mais en prenant le cas de la loi numéro 1, la liberté d'expression. Au moment où la crise économique s'aggrave, on voit des grèves d'OS dans l'industrie automobile, ici celle d'Aulnay, où les ouvriers sont en grande partie maghrébins. Et voyez comment ils profitent d'une façon qui va vous étonner de la liberté et du droit d'expression.
أيها المهاجرين عمال سترين تفضلوا وانتبهوا جدا فشكرا لكم في بلا السجتي في بلا ليبرتي.
On a demandé que la direction mette à votre disposition un lieu de prière comme ça se fait chez Renault et comme ça se fait chez Simca. La direction pendant toute la matinée et une partie de l'après-midi a dit que c'était pas possible. Ça coûtait trop cher. La direction a obtenu le soutien d'un syndicat qui s'appelle la CFTC, qui a proposé aux camarades maghrébins d'utiliser les aires de repos comme lieu de prière. Nous avons dénoncé ça. C'est une question de dignité et de liberté pour qu'ils puissent, comme tout le monde, pratiquer leur religion.
Ouais.
Et sur cette question-là, nous tiendrons jusqu'au bout, il faudra bien que la direction, elle vous donne un lieu de prière comme dans les autres entreprises.
Ouais.
Excellent documentaire sur Aulnay 82 de Claude Blanchet intitulé Aya. J'imagine Bergeron, le laïc de FO, qui vous avait dit « ça va être le bordel ». Et il entend la CFTC qui demande des lieux de prière sur le parking et la CGT qui surenchérit. La grande pagaille.
Oui, alors... Bon, c'est vrai qu'un certain nombre de chefs d'entreprise n'ont rien fait pour faciliter les choses. Je reconnais aussi que pour les syndicats, comme pour les dirigeants d'entreprise, il fallait digérer des nouveaux textes, des nouvelles procédures, des nouveaux droits. Mais tout ça a été quand même très amplifié. Cela dit, je reconnais que j'ai sans doute été le ministre du Travail le plus envahi de tous.
Et puis vous reconnaissez que... La loi sur la liberté d'expression n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez.
Non, alors, elle n'a pas fonctionné. D'abord, moi, je reste très fermement laïque. L'entreprise, c'est pas un lieu de prière. Il peut y avoir des ajustements, mais vraiment à la marge. Si on commence à entrer dans ce détail avec des rivalités religieuses, on va vraiment compliquer les choses. Mais effectivement, je reconnais que j'ai pas eu les satisfactions que j'espérais sur le droit d'expression. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'entreprise, le lieu le lieu du silence des hommes et du bruit des machines. Ça n'a pas marché. Les syndicats étaient souvent assez prudents en disant, c'était l'expression directe sur le lieu du travail, pendant les heures de travail, c'est à nous d'organiser les assemblées générales. Donc, syndicalistes réservés. Le petit encadrement aussi. C'est nous qui allons, passez-moi le mot, nous faire engueuler, etc. Et les dirigeants, c'est du temps perdu, etc. Donc, il n'y a pas eu une dynamique assez grande. Et puis, certains disaient, mais je ne sais pas parler. C'est pas facile d'exprimer devant tout le monde, devant d'autres, devant des collègues, et de dire ce qu'on a. Pourtant, pour moi, c'était en amont du CHSCT, le fait d'exprimer sa souffrance, ses soucis, et de reprendre, que ce soit relayé après par le comité d'hygiène et de sécurité.
Ce qui a marché le mieux, c'est justement le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, la quatrième loi, 23
décembre.
Alors,
la quatrième loi, effectivement, il existait avant les CHS, qui étaient hygiène et sécurité, qui étaient à vocation sécuritaire et hygiéniste. Moi, j'ai ajouté les conditions de travail, c'est-à-dire comment on améliore la vie au travail, notamment en tenant compte des nouvelles technologies. Et là, j'avoue que je ne décolère pas de voir que le gouvernement, dans ses ordonnances, est en train de sacrifier le CHS. C'était en le mixant avec le comité d'entreprise, c'est deux fonctions différentes. Le comité d'entreprise a une fonction économique. Et le CHSCT, il s'occupe pas des chiffres, il s'occupe des hommes. Et je regrette beaucoup qu'on l'ait sacrifié pour une éventuelle simplification qui fait qu'en fait, il sera marginalisé. Je ne sais même pas s'il gardera la personnalité civile qui lui permettait d'ester. Pour moi, c'est d'une grande tristesse et une colère contre cette disposition, parce que quand même, il n'y a pas que les chiffres dans la vie au travail, il y a le vécu des hommes.
La loi numéro 3 prévoyait une négociation annuelle obligatoire dans chaque entreprise, ce que le dirigeant de EFO n'appréciait que très modérément.
Pour vous, les lois Auroux, ça ne ça servait à rien.
Ça faisait partie de toute cette philosophie autogestionnaire de l'époque. C'était un peu des prolongements de 68. Enfin, je vais vous donner un exemple. On a fait obligation aux entreprises de discuter, je ne sais plus si c'était une fois ou deux, des salaires dans l'année. Alors on discutait une fois ou deux des salaires dans l'année. C'est-à-dire qu'on respectait l'obligation. Mais comme il n'y avait pas d'obligation d'arriver à une conclusion, Martine Aubry, avec qui j'en ai parlé bien des années après, a reconnu que ça n'avait pas été positif et qu'au contraire, ça avait encore vidé la politique conventionnelle de sa substance. On demandait aux patrons de faire quelque chose, mais il n'y avait pas d'aboutissement. Pourquoi voulez-vous que les patrons n'acceptent pas de discuter dans la mesure où ils savent qu'ils n'ont aucune obligation d'aboutir ?
André Bergeron veut dire que si une négociation d'entreprise n'a pas de grain à moudre, ça n'a pas d'intérêt et qu'il faut en rester aux négociations essentielles par branche. Et à EFO, aujourd'hui, on dit Pénicaud, c'est la suite d'Auroux. C'est l'inversion des normes.
Non, ça n'est pas l'inversion, mais il y avait une géométrie dans mon esprit qui était très claire. Les fondamentaux, c'est la loi. Les métiers, les professions, c'est la convention collective. Et l'entreprise, c'est la NAO, la négociation annuelle obligatoire. Et je comprends qu'aujourd'hui, il y a des interrogations parce qu'on tend à vider les conventions collectives qui non seulement sont des garanties pour les salariés, mais aussi pour les entreprises, pour éviter le dumping social entre les entreprises d'une même branche. Donc, on peut trouver parfaitement, moi je pense que je l'avais trouvé, un accord, une géométrie correcte. C'est vrai que la NAO n'introduisait pas une obligation de conclure, ça je le reconnais, mais moi je faisais aussi confiance au temps. Avec les réformes qui sont en train de se faire, la décision sera plus carrée, il y aura même plus à
juste
décider.
Juste un mot rapide pour conclure, mais votre réponse peut être brève. Vous pariez sur un développement de la syndicalisation ?
Alors, écoutez, moi je note qu'aujourd'hui, les ordonnances Macron sont ni justes, puisque elles vont apporter de gros inconvénients et des drames pour les salariés, parce que à faire des emplois, un parcours professionnel heurté, comme dit le président, ça veut dire qu'on va peut-être vider les caisses du chômage, enfin du moins les effectifs du chômage, on va les remplacer par une précarité de masse. Et puis, elle n'est pas équitable, n'est pas équilibrée, puisque c'est le patronat qui va désormais gérer les choses avec beaucoup de liberté. Et quant au fait que le CHSCT soit remis en cause, pour moi, c'est vraiment une erreur économique et sociale.
Merci à vous, Jean Auroux. Demain, on parlera d'un aviateur qui s'appelle Jean Auroux. Il est mort en 1915. Et puis de tous les aviateurs de la Grande Guerre. L'émission a été préparée par Linka Negulesco avec Ronan Mahé et Valérie Estaraï. Puisqu'on parle du travail dans la tête au carré, cher Mathieu.
Mais oui, Jean, nous allons évoquer les mains dans un instant. Ben oui, ce que nous faisons d'elles et pourquoi, avec un psychanalyste et un chirurgien. Voilà, deux angles différents.